Le rendez-vous de Pont-Saint-Maxence.
Le 4 novembre, Philippe le Bel devait chasser en forêt de Pont-Sainte-Maxence. Avec son premier chambellan, Hugues de Bouville, son secrétaire Maillard et quelques familiers, il avait dormi au château de Clermont à 2 lieues du rendez-vous. Le roi semblait détendu et de meilleure humeur qu'on ne l'avait vu depuis longtemps. Les affaires du royaume le laissaient en repos. Le prêt consenti par les Lombards avait remis le trésor à flot. L'hiver allait ramener au calme les seigneurs agités de Champagne, ainsi que les communaux de Flandre. La neige était tombée dans la nuit. Première neige de l'année, précoce, presque insolite. Le gel de l'aube avait fixé cette poudre blanche sur les champs et les bois, transformant le paysage en une immense étendue givrée et inversant les couleurs du monde. Le souffle des hommes, des chiens et des chevaux s'épanouissait dans l'air gelé en grosses fleurs cotonneuses. Lombard trottait derrière la monture du roi. Bien que ce fût un chien à lièvre, il participait aussi aux cours de cerf, travaillant à son compte, mais remettant souvent la meute sur la voie. Les lévriers, s'ils sont appréciés pour leur œil et leur train, sont généralement réputés pour ne sentir rien. Or, celui-là avait du nez comme un chien poitevin. Dans la clairière du rendez-vous, au milieu des aboiements, des hennissements, des claquements de fouet, le roi passa un bon moment à regarder sa magnifique meute, à demander des nouvelles des lys qui avaient mis bas, et à parler à ses chiens. « Oh, mes valets, oh là, mes beaux! Hao, hao !» Le maître des chasses vint lui faire le rapport. On avait rembûché plusieurs cerfs, dont un grand dicor qui, au dire des valets de Limier, portait ses 12 andouillets, un dicor royal, le plus noble animal de forêt qui se pût rencontrer. De surcroît, il semblait que ce fût un de ces cerfs dits pèlerins qui vont sans harde de forêt en forêt, plus fort et plus sauvage d'être seul. « Qu'on l'attaque !» dit le roi. Les chiens découplés furent conduits à la brisée et mis à la voie. Les chasseurs s'égayèrent vers les points où le cerf pouvait sauter. « Taille or ! Taille or ! » entendit-on bientôt crier. Le cerf avait été aperçu. La forêt emplie de la voix des chiens, des appels de cors et de grands fracas de galopades et de branches rompues. D'ordinaire, les cerfs se font chasser un certain temps autour de l'endroit où on les a levés, tournent en forêt, rusent, brouillent leur voix, cherchent un cerf plus jeune pour faire change et tromper le nez des chiens, reviennent à l'enceinte d'attaque. Celui-ci surprit son monde et, sans buissonner, courut droit vers le nord. Sentant le danger, il repartait d'instinct vers la lointaine forêt des Ardennes, d'où sans doute il venait. Il emmena ainsi la chasse 1 heure, 2 heures, sans trop se hâter, maintenant juste le train qu'il fallait pour distancer les chiens. Puis, quand il sentit que la meute commençait à fléchir, il força brusquement son allure et disparut. Le roi, fort animé, coupa à travers bois pour prendre les grands devants, gagner la lisière et attendre le cerf à sa sortie en plaine. Or, rien ne se perd plus vite qu'une chasse. On se croit à 100 toises des chiens et des autres veneurs qu'on entend clairement, et l'instant d'après, on se trouve dans un silence total, une solitude absolue, au milieu d'une cathédrale d'arbres, sans savoir où s'est évanouie cette meute qui criait si fort, ni quel fait, quel sortilège a effacé vos compagnons. De plus, ce jour-là, l'air portait mal les sons, et les chiens chassaient difficilement à cause du givre partout répandu qui refroidissait les odeurs. Le roi était perdu. Il contemplait une grande plaine blanche, où tout jusqu'à l'horizon, les prairies, les haies courtes, les chaumes de la récolte passée, les toits d'un village, les lointains moutonnements de la forêt suivante, tout était recouvert d'une même couche scintillante immaculée. Le soleil avait percé. Le roi se sentit soudain comme étranger à l'univers. Il éprouva une sorte d'étourdissement, de vacillement sur sa selle. Il n'y prit pas garde, car il était robuste et ses forces ne l'avaient jamais trahi. Tout préoccupé de savoir si son cerf avait débuché ou non, il suivit la lisière du bois, au pas, cherchant à distinguer sur le sol le pied de l'animal. « Dans ce givre, je le devrais voir aisément, » se disait-il. Il aperçut un paysan qui marchait non loin. « Oh là, l'homme !» Le paysan se retourna et vint vers lui. C'était un manant d'une 50aine d'années. Il avait les jambes protégées par des guêtres de grosse toile et tenait un gourdin dans la main droite. Il ôta son bonnet, découvrant des cheveux grisonnants.